Donc, je pense que je vais apporter certains points d'analyse, mais laisser aussi d'autres points dans l'ombre, malheureusement, parce que vous allez constater que ce travail, en fait, est très long et fastidieux à mener. Donc, pour commencer, je vais succinctement présenter les sources. Donc, j'ai travaillé sur les archives préfectorales, donc des dizaines de cartons aux archives départementales qui sont soumis à dérogation et qui ont mis un temps très très important selon moi pour m'être accordé, c'est-à-dire 1 an et demi, ce qui a largement grevé mon travail. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi enfin à finir de dépouiller ces archives-là, et c'est à partir d'elles notamment que j'ai pu constituer une chronologie. Les archives syndicales également, donc à l'Institut d'histoire sociale CGT, mais également à l'USTM CGT, qui possède un important fonds documentaire qui n'est pas encore versé à l'IHS, mais qui mériterait de l'être. La presse, qui est bien souvent complémentaire et en même temps issue des archives syndicales, je vais m'expliquer. Tout simplement, la presse reprend généralement les communiqués des syndicats. Communiqués des syndicats qui sont retranscrits soit in extenso, soit par extrait, mais pas systématiquement cités. Donc moi, je me suis rendu compte qu'un certain nombre d'articles de presse étaient en fait des articles tirés de communiqués syndicaux. Et cette presse, qui est largement consultée par les renseignements généraux, qui constitue à partir de là un corpus classé par entreprise. Donc on voit tout de suite le problème qui se pose, c'est qu'on est dans une sorte de cercle où ne sont visibilisés, on va dire, que certains conflits et pas tous les conflits qui peuvent exister. Donc, le corpus de conflits sur lequel j'ai travaillé, c'est un corpus minimal, on va dire. Et la bibliographie du bassin stéphanois sur ces années-là reste très mince, si ce n'est l'ouvrage de Messier Ritier-Yon sur 150 ans de lutte ouvrière dans la Loire. Il n'existe quasiment aucun travail sur les luttes ouvrières dans le bassin stéphanois dans ces années-là, ce qui pose notamment la question de la place et du rôle des universitaires dans l'élaboration d'une mémoire ouvrière, dans le sens où l'étudiant qui veut se lancer dans ces études-là va trouver un nombre de travaux, excusez-moi, innombrables sur Peugeot, par exemple, Sochaux, mais ne va presque pas trouver d'archives et de bibliographies sur des zones comme le bassin stéphanois. Donc les critères que j'ai utilisés sont assez restreints, c'est-à-dire uniquement les grèves dans le secteur privé et hors BTP, puisque le bâtiment me posait de gros problèmes de source, puisque comme situé dans des chantiers à travers les villes, les renseignements généraux arrivaient très difficilement à compiler les informations concernant le BTP. J'ai laissé de côté aussi les grèves de la SNCF, de DFGDF, de la masse, des mines, de casinos et des petits commerces, tout en sachant très bien que c'était quand même des éléments importants, voire moteurs sur certains aspects, mais qui constituaient, on va dire, une frange limitée du nombre d'entreprises par rapport au nombre d'entreprises dans le bassin stéphanois, notamment dans la métallurgie. Donc, mon corpus de sources sera surtout centré sur la métallurgie mécanique générale, le textile et les industries diverses, comme par exemple l'électronique, très faiblement implantée dans le bassin stéphanois. Donc, dans les données globales que je vais vous donner, il n'y aura pas mai juin 68, qui pose un énorme problème là aussi de compilation des données, puisque j'ai dépouillé les 2 cartons réservés à mai juin 68 par les services préfectoraux. Et on se rend bien compte qu'ils n'arrivent pas du tout à saisir l'ampleur du phénomène. L'absence de travaux ultérieurs, l'absence de mémoire, l'absence de témoignages pose un certain nombre de problèmes pour arriver à comprendre l'ampleur de la grève de mai juin 68 dans le bassin stéphanois, même si j'ai quelques indices et même si on arrive à dire globalement qu'il y avait environ 40 000 grévistes dans la métallurgie dans le bassin stéphanois jusqu'au 20 juin. Mais il y avait aussi des entreprises qui ont continué de travailler pendant ces années-là. J'ai rencontré certains acteurs de l'époque qui me disaient que leur entreprise continuait à travailler, même si, bien sûr, ça reste les petites entreprises, donc tout ce petit maillage stéphanois. Je n'ai pas pris en compte les questions des grèves de mensuels. Elles existent, même si elles ne sont pas très, très développées en volume global. Et même si ça pose des problèmes aussi quant aux qualifications, avec cette question de la mensualisation des ouvriers dans les années 70. Les sources sont très succinctes sur les qualifications dans les entreprises, etc. D'autant plus que, comme vous le savez tous, il y avait des centaines d'entreprises dans le bassin stéphanois, et ce qui pose un problème incommensurable pour arriver à comprendre et à définir un petit peu les qualifications propres à chaque entreprise. Le cadre, ça va être le bassin stéphanois pur et dur, donc l'ancien bassin minier, c'est-à-dire de Rive-de-Gier à Saint-Chamond, de Saint-Étienne à Laricama, à Firminy, Fraisse-Unieux. Et je suis monté quand même jusqu'à Andrézieux-Boutéon, puisque un certain nombre d'entreprises vont s'implanter dans cette zone dans les années 70, avec cette question de décentralisation et puis surtout cette mise en place de zones industrielles, etc. Donc, ils vont faire un petit peu sortir les usines qui étaient complètement insérées dans le maillage urbain du bassin stéphanois, hors de ce cadre urbain, et vont créer des nouveaux territoires. J'ai pris en compte aussi toutes les questions de reconversion des mineurs et notamment reconversion de certaines zones industrielles comme la Table d'Hyères-Sorbier ou Roche-la-Molière, qui vont voir certaines entreprises s'implanter au début des années 70 et qui vont donner lieu là aussi à de nombreux conflits, conflits d'installation, etc. Et les critères, c'est tous les arrêts de travail que j'ai pu rencontrer, donc qu'ils durent une heure ou plusieurs mois, je les ai considérés comme des conflits du travail. Voilà. Le postulat, donc pour étudier, j'ai quelques postulats pour étudier et comprendre les grèves ouvrières, notamment dans un territoire industriel complexe et diversifié comme l'est le bassin stéphanois, même s'il y a une certaine homogénéité au niveau des industries, de la sous-traitance, etc. Il faut quand même avoir une vue d'ensemble pour comprendre un petit peu la dynamique des grèves dans le bassin. Donc pas simplement étudier les conflits les plus symboliques, qui sont souvent les plus médiatisés, mais qui ne sont peut-être pas forcément le fond et le cœur des grèves dans le bassin stéphanois. J'ai considéré par là que le nombre d'entreprises qui étaient touchées, que j'avais pu recenser, était un élément clé pour comprendre le phénomène des grèves dans le bassin stéphanois. Et tout en gardant dans la tête que le bassin stéphanois n'est pas un isolat au milieu de la France, et qu'il est en lien avec ce qui se passe au niveau national, voire international, et qu'il s'inscrit dans des grandes tendances nationales. Donc, j'en arrive à 998 conflits, et vous rendez compte que étudier 998 conflits écarte tout de suite l'idée d'en étudier un particulier pour essayer d'exprimer et de comprendre ce que pouvaient être les grèves dans le bassin stéphanois entre 1962 et 1982. Là, c'est pour 1962-1982. Donc, 998 conflits. Bien entendu, dans ces conflits, une partie d'entre eux, une grande partie, sont des conflits qui durent moins de 24 heures la plupart du temps, mais qui sont quand même des conflits du travail. C'est pas parce qu'on arrête que quelques heures le travail qu'on ne doit pas considérer que ceci n'est pas une vraie grève ou un vrai conflit. Donc, j'ai pris l'ensemble des conflits. 998 conflits hors journée d'action. Journées d'action qui sont innombrables, notamment dans les années 60, et qui donnent lieu à des débrayages dans beaucoup d'entreprises qui sont complètement problématiques pour moi parce que je n'ai aucune liste, à part celle qui est fournie dans la presse, des entreprises en grève. Donc, le chiffre global, en fait, exploserait au niveau des entreprises si on prenait vraiment en compte les conflits lors de ces journées d'action. Donc là, c'est hors journée d'action, donc je ne vais pas en parler, mais on les garde dans la tête. Ce qui fait environ 48 conflits en moyenne. Donc là, c'est une moyenne qui m'a permis juste de voir un petit peu les années qui pouvaient ressortir par rapport à cette moyenne. Hein. Les moyennes, on sait tous que ça peut poser des problèmes, en fait, et que ça rend abstrait un petit peu l'analyse. Mais 48 conflits en moyenne localisés dans des entreprises, ce qui veut dire que, concrètement, on a quasiment des conflits tous les mois, avec des pointes à certains moments. L'année la plus basse, mais là, c'est aussi en relation avec... par rapport aux sources que j'ai pu consulter, c'est l'année 1962. Le début de mon enquête. Et l'année la plus haute, c'est 1976, avec 80 conflits. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'année 1976 n'est peut-être pas forcément l'année qu'on s'attendait à retrouver, mais c'est bel et bien, pour les données que j'ai pu compiler, l'année où on retrouve le plus de conflits, à un moment très intéressant, puisque c'est depuis un an ou deux une crise qui se généralise dans le bassin stéphanois. Et c'est le signe que la plupart de ces conflits-là sont déjà des conflits défensifs face aux fermetures, etc. Les années qui connaissent le plus de conflits sont 1965, 67 et 69, pour la première partie de ma période. 1965, qui va connaître un nombre très intéressant de conflits et surtout une hausse du nombre d'entreprises en lutte et des conflits qui vont commencer à porter dès le départ sur des questions à la fois de cadence, de travail, etc., mais en même temps des questions relatives au maintien de l'emploi dans le bassin stéphanois. Donc on peut d'ores et déjà dire qu'avec la grève des mineurs de 1963, qui va poser radicalement cette question de l'avenir du bassin stéphanois, se diffuse dans l'ensemble du bassin une crainte à la mesure de ce que peuvent représenter l'entreprise, les industries dans le bassin stéphanois, c'est-à-dire une perspective d'avenir qui devient de plus en plus noire, d'autant plus qu'on se dit que si les mines peuvent fermer, le reste des entreprises peuvent fermer aussi. Donc toutes les industries peuvent être menacées. Et je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être beaucoup plus approfondi. Ça va être la place et le poids de la fermeture des mines dans l'esprit, dans la psychologie collective dans le bassin stéphanois. Une étude qui mériterait un approfondissement très important et qui est difficile à mener, puisque c'est quelque chose quand même de très subjectif, mais qui doit s'ancrer dans les pensées des personnes de l'époque pour estimer que la crise est très importante et peut amener à terme la disparition d'autres industries. 1967, pareil, une année où là, on va voir un certain nombre de conflits dans des petites boîtes, pas spécialement dans les grosses boîtes. Donc les grosses écuries dans le bassin stéphanois dans les années 60, ça va être les forges stéphanoises, la CFL, bien sûr, Marel, BSN à Rive-de-Gier, les entreprises comme Mavilor dans la vallée du Gier, un peu moins la vallée de l'Andenne, qui est un peu moins présente dans les conflits dans cette période-là. 1968, donc, n'apparaît pas, donc là, c'est par rapport à ce que je vous ai dit au départ, mais il faut considérer que l'année 68 marque un nouveau départ des luttes dans le bassin stéphanois, qui aboutit notamment, en cette année 69, à une explosion des conflits, notamment durant l'hiver 1969, où un certain nombre d'entreprises, à la fin de l'année, vont connaître des grèves avec occupation d'usines très importantes et qui vont faire tache d'huile un petit peu. Donc ça va être des grèves à Manu France, grève qui va déclencher une répression patronale dans l'esprit du moins, puisqu'ils veulent licencier 1000 personnes quelques jours après le début de la grève pour faire rentrer tout le monde dans l'entreprise. Ça va être des conflits chez Vageor, donc les constructions électromécaniques de Saint-Étienne, qui était aussi avenue Roche-Taillé. Ça va être des conflits, bien sûr, en 69, dans l'usine Peugeot, qui va connaître un de ses premiers grands conflits, et tout un tas de petits conflits comme ça qui vont jalonner cette année 69. Après, l'année 70 va être dans une certaine mesure assez calme, mais là, on retrouve aussi des analyses au niveau national. 1971 dénote un regain d'activité au niveau national et on le retrouve complètement dans le bassin stéphanois, puisqu'à partir de 71 à 76, là, on est dans l'acmé des luttes ouvrières dans le bassin stéphanois, avec des conflits qui dépassent largement la moyenne de 48 par année et des conflits qui, là, vont prendre un caractère beaucoup plus de type insubordination ouvrière pour la plupart, mais là encore mêlé au premier conflit concernant les fermetures d'usines, notamment des conflits entre 74 et 75 dans la zone de reconversion de la Talodière-Sorbier, où les principales entreprises qui avaient été installées au début des années, vers 1969-70, vont connaître dès le départ des grosses difficultés. Donc on a à la fois l'apparition d'un nouvel espace de lutte dans le bassin stéphanois, la zone de Molina-la-Chazotte, et en même temps, on va retrouver des premières interrogations sur cette question de la reconversion, oui, mais si c'est pour que nos entreprises ferment au bout d'un an ou deux, ou qu'elles commencent à licencier à tour de bras, ça pose un problème incommensurable encore. Et donc, on va retrouver à la fois, dans ces années 71-76, cette question d'insubordination ouvrière qui est présente, mais diffuse, pas partout, pas dans toutes les entreprises, et en même temps, ces questions d'emploi. Donc, pour ce qui est des entreprises avec des formes de lutte à caractère d'insubordination ouvrière, ce sera aussi des entreprises qui vont connaître la présence de gauchistes. Et ce sera notamment le cas dans la vallée du Gier principalement. Beaucoup moins dans la vallée de l'Andenne, un peu moins sur Saint-Étienne, mais surtout la vallée du Gier qui va connaître l'effort et la concentration de militants gauchistes, de militants maoïstes, la plus intense dans ces années-là. Et enfin, 1978-1979, deux années où, en fait, ce sont des luttes, la plupart du temps, complètement défensives contre la fermeture d'entreprises, avec des conflits majeurs, aussi bien dans le textile que dans la métallurgie. Donc, en gros, 68-79, c'est quasi 70% de la période des grèves, de la masse globale des grèves. Donc, on est là, on retrouve complètement la chronologie nationale qui a été proposée par main d'historien. Et le bassin stéphanois, à ce niveau-là, ne se singularise que parce qu'il y a une prégnance des conflits liés aux fermetures d'entreprises et aux licenciements. Et en 1980, on retombe au nombre de conflits de 1964. Donc on peut dire qu'on est dans une période qui commence à se clore. Et ça accrédite complètement la thèse à la fois de l'insubordination ouvrière, mais en même temps du poids de la crise dans l'arrêt de cette insubordination ouvrière. Donc 63-79, là, c'est un petit moyenne paille qui ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où si j'avais pu étudier, j'ai pu mettre le nez dans les archives des années 50, je me rends compte que les années 50 sont beaucoup moins chargées en conflits. Donc, ça accrédite encore plus l'idée que 63-79 est la période d'acmé des luttes ouvrières dans le bassin stéphanois pour la période considérée. Donc, en gros, j'ai répertorié 232 entreprises touchées par des conflits durant ces années. Mais en fait, il n'y en a que 34 environ qui sont touchées par des conflits chaque année, en moyenne, bien sûr. Mais hors mai-juin, les années qui sont le plus touchées, c'est 69 et 71 à 79, où là, on est au-dessus de cette moyenne-là. Donc, ça a encore accrédité l'idée l'acmé des luttes durant cette décennie-ci. Et ces conflits durent en moyenne 18 jours. Mais entre 76 et 82, la tendance part à la hausse avec des pointes à plus de 56 jours. Mais là, c'est des moyennes globales encore, puisque certains conflits, comme je pense J.B. Martin, va durer quasiment 3 ans. Des conflits autour du textile dans des entreprises à majorité de main-d'œuvre de femmes vont durer un an, Juste à Coudre, Villard-d'Oron, etc., etc. Donc c'est tout un tas de conflits qui vont gonfler un petit peu la durée des moyennes de ces conflits, mais on est quand même dans une période où les conflits se radicalisent dans le sens où ils durent de plus en plus longtemps. Donc les femmes, comme je l'ai dit, on les retrouve la plupart du temps dans les entreprises de textile. Notamment dans certaines entreprises, donc les plus importantes, certes, Gunther Royon, Jurine au Chambon-Feugerolles, Gunther Royon à Saint-Étienne, Justa Coudre, Oumeil à Saint-Étienne, Villard-d'Oron qui déménage d'ailleurs de Saint-Étienne pour aller sur Sorbiolat-Alaudière dans les années 70. Donc c'est certaines entreprises qui sont ciblées pour l'activité de grève de femmes ou de grève d'ouvrières. Là, c'est une autre question. Et ces grèves-là, très bien, ne sont pas du tout le cas dans d'autres entreprises. Donc, il faut se garder de dire que dans toutes les entreprises textiles, etc., il y avait des luttes. Non, j'ai eu plein de cas de fermeture d'entreprise où il ne se passe quasiment rien. C'est plus la résignation qui joue qu'autre chose. Les jeunes, on les retrouve notamment dans les années 60, donc c'est la première génération du baby-boom. On les retrouve dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans la vallée du Gier, où les jeunes sont bien mis en avant par les renseignements généraux, comme quoi ils poussent à la grève. Les immigrés, par contre, qui sont présents dans la plupart des grosses entreprises du bassin stéphanois, ne vont pas mener des luttes à part entière, comme on a pu le voir dans certaines autres entreprises en France. Et à part peut-être s'il y a une manipulation, entre guillemets, de groupes gauchistes. Je pense aux Aciéries du Furan en 74, où cette boîte à majorité d'immigrés va connaître un conflit assez important mené par des gauchistes. Mais selon les renseignements généraux, la plupart des immigrés vont quitter la boîte pendant l'entreprise, pendant la grève, pour aller se faire embaucher ailleurs. Les gauchistes, donc, comme je l'ai dit, on les retrouve essentiellement dans la vallée du Gier, dans quelques entreprises du bassin de Saint-Étienne, très peu dans l'Andenne. Et là, on retrouve un petit peu une carte entre guillemets électorale avec une Andenne beaucoup plus communiste. Un parti communiste aussi qui est très implanté sur Saint-Étienne et une zone de la vallée du Gier où la force du parti communiste est beaucoup plus lâche et où on voit aussi une activité intense du Parti socialiste unifié être menée. Donc les syndicats, bien sûr, CGT et CFDT en ligne de mire principalement, Et notamment la CGT, il y a très peu d'entreprises où il n'y a que la CFDT qui est présente. Donc là, c'est très intéressant d'étudier un petit peu comment se répartissent les rôles dans ces luttes-là et voir un petit peu les conflits entre syndicats qui peuvent naître dans ces années 70. Les partis, donc c'est le Parti communiste français et le Parti socialiste unifié que je retrouve le plus souvent, notamment le Parti communiste dans la vallée de l'Andenne et sur Saint-Étienne. J'ai presque fini. L'étatisation des luttes, on la retrouve complètement, dans le sens où la plupart des conflits à partir de 1974 mettent en avant d'une part le programme commun, d'autre part critiquent ouvertement la politique gouvernementale. Et dès que Michel Durafour est ministre du Travail, ça en rajoute une couche, si je peux dire, puisqu'on a une cible complètement privilégiée pour pouvoir étatiser les luttes ouvrières de cette période. Pour finir, je pourrais dire que grève et conflit pourraient être distingués dans le sens où les grèves, ce seront ces arrêts de travail collectifs. Et les conflits, les conflits ne prennent pas spécialement l'aspect de grève pure et dure, mais seront des conflits qui vont porter sur ces questions d'emploi, donc des conflits qui vont durer des fois plusieurs mois et qui vont en fait être entrecoupés de périodes intenses d'activité gréviste et d'autres fois de périodes de travail. On le voit notamment à Manufrance, où la lutte des Manufrance est en fait hachée en plusieurs petites sous-parties. Et on ne peut pas parler globalement d'une grève de Manufrance, mais d'un conflit beaucoup plus généralisé avec cette question lancinante de l'emploi. Je vous remercie. Donc j'ai été très succinct et je ne suis pas rentré dans le détail. Vu le nombre de conflits qu'il y avait étudiés, je n'ai pas voulu en choisir un en particulier qui n'aurait été représentatif que de lui. Mon travail apportera certainement beaucoup plus de précision que ces quelques données que j'ai pu vous donner. C'était juste pour replacer un petit peu le cadre. Et j'espère qu'on va pouvoir approfondir. Voilà.